passé avant l'heure. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente. Mon nom est Martine Aprib et je suis la présidente du Cercle des Amis du Château de Coppet. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir à cette quatrième conférence des rencontres de Coppet sous le signe de Germaine de Staël et l'Angleterre. C'est aussi, il faut le dire, la dernière conférence cette année. Mais restez encore avec nous parce que, comme vous avez vu sur le flyer, il y a encore un moment phare de cette année qui est le 18 novembre, la Schubertiade, dans la salle du pressoir. Doris Jacobek, notre intervenante ce soir, n'est pas une inconnue à Coppet où elle a pris sa retraite. Elle m'a même confié un jour. Elle s'est installée ici à cause du château de Coppet et de Germaine de Staël, juste?
Oui, juste.
Mais en fait, Doris est mondialement connue, surtout dans sa fonction de professeur de littérature à l'Université de Lausanne pour avoir promu les arts romandes. Elle reçoit en 2012 le prix de la Fondation Lennartz et, écoutez bien, pour cette infatigable ambassadrice des lettres romandes, pour son parcours d'exception, sa fidélité au pari de la proximité et la disponibilité sans réserve avec laquelle elle a accompagné de nombreux peintres, romanciers et poètes. Aujourd'hui, elle nous parle de Germaine de Staël, évidemment, de ses premiers fondements, ou les premiers fondements de la pensée staalienne, et vous allez entendre de quelle manière l'Angleterre a vraiment joué un rôle important dans la vie de Germaine de Staël. Mais avant de donner la parole à Doris Jacobek, je voulais remercier nos sponsors sont toujours sur nos flyers, mais ça vaut toujours la peine de les mentionner. C'est le château de Coppet, la loterie romande, la commune de Coppet, le canton de Vaud, la fondation Ernst Göhner, la fondation Coromandel et bien d'autres aussi sur le plan privé. Je vous rappelle aussi, mais là, ce n'est plus la peine de le faire remarquer, nous avons, après la conférence, une verrée, donc restez encore un peu avec nous, ne partez pas tout de suite. Voilà, la parole est à Doris Jacobek.
Merci beaucoup. Avant d'entrer dans mon sujet, je voudrais vous signaler que aujourd'hui et demain se tient à Paris un colloque qui s'intitule Le groupe de Coppet et la mort. Et il est dirigé par, ce colloque est franco-suisse, et dirigé par Léonard Burnand et Stéphanie Genant, qui sont des conférenciers qui viennent beaucoup ici. Et nous partageons avec eux cette sorte de regain d'intérêt pour Germaine de Staël. C'est une chose magnifique de voir que, grâce à l'enseignement de Stéphanie Genant et probablement de Léonard Burnand à Lausanne sur Constant, les esprits s'éveillent à certaines nouveautés et certaines nouvelles recherches à faire autour de Germaine de Staël. Et nous sommes, en quelque sorte, le troisième lieu de visibilité de Germaine de Staël, avec précisément l'Institut Benjamin Constant à Lausanne et les études staliennes à Paris et Rouen. Stéphanie est enseigne à l'université de Rouen. Et je pense que c'est une chose magnifique si on peut garder aussi ici des recherches à faire sur Germaine de Staël ou des conférences ou des discussions, des conversations autour des différents thèmes qu'elle a traités dans sa vie et dans son œuvre. Donc, je leur fais un petit signe depuis ici avec vous. Je leur ai évidemment dit que je parlerai de ce réveil des études staliennes et de cet intérêt très ouvert sur la personnalité, pas du tout encore limpide, de Germaine de Staël. Je vais parler ici de son voyage en Angleterre et de ses années de formation. Ce sont des années difficiles, tout d'abord par les difficultés de sa vie personnelle, mais aussi les difficultés de l'époque. Et ces années difficiles, mais qui sont les années les plus fortes de sa formation, tant personnelle, littéraire que politique, sont les années 1788 et 1796. Ces 10 années-là sont extrêmement importantes. Notre cycle de conférences s'est intéressé cette année à une question, somme toute, très simple. Pourquoi l'Angleterre occupe-t-elle une place à part dans les œuvres et la pensée de Germaine de Staël? Il y a des raisons documentaires qui sont toujours les premières pour les chercheurs, mais qui permettent le déploiement des travaux. Des sources nouvelles se sont ouvertes en 2017 grâce à de jeunes chercheuses, probablement des étudiantes de Stéphanie Genant, d'où des regards nouveaux, des idées nouvelles, des comparaisons qui n'avaient jamais eu lieu auparavant. Importante aussi dans cet aspect documentaire, c'est la fin de la publication de la correspondance générale de Germaine de Staël, qui fournit une immense documentation sur le grand voyage, c'est-à-dire la traversée de l'Europe que Germaine de Staël a accomplie avec son fils Auguste et sa fille Albertine entre mai 1812 et juin 1813. À cette question, pourquoi l'Angleterre occupe-t-elle une place à part ? Il y a trois réponses. D'abord, parce qu'il s'agit du pays où Germaine de Staël effectue les plus nombreux séjours, c'est-à-dire 3 séjours à l'étranger, en Angleterre. Le premier séjour du 16 avril au 24 mai 1776, elle est alors âgée de 10 ans, elle accompagne ses parents qui passent 3 semaines à Londres, vraisemblablement pour un voyage d'affaires et des contacts diplomatiques. On ne sait pas trop de choses là-dessus. Le deuxième, du 20 janvier au 25 mai 1793, comme émigrée, elle fuit alors la France et retrouvera Narbonne, avec lequel elle vit une passion amoureuse dès 1790. Lui aussi quitte la France et gagne l'Angleterre, mais en août 1792 déjà, car elle attend un enfant qui va naître à Roll en novembre 1792 et qui s'appellera Albert. Elle part donc en janvier 1793 pour s'installer à Juniper Hall, à 36 km de Londres, là où plusieurs Français, considérés comme... considérés comme des constitutionnalistes ou des ennemis du peuple, se sont installés eux aussi. C'est sur ce séjour que nous nous arrêterons. Troisième voyage, du 17 juin 1813 au 8 mai 1814, exilée et fuyant les persécutions administratives, puis les armées de Napoléon, elle passe 11 mois en Angleterre en compagnie de sa fille Albertine, de son fils Auguste et de son second mari, encore officieux, Albert Jean-Michel, dit John Rocca. Puis, la réponse est aussi parce que ce pays est omniprésent dans les œuvres et la pensée de Germaine de Staël. L'Angleterre incarne une nouvelle sensibilité littéraire que Staël nommera en 1800 dans de la littérature du Nord. Vous pouvez voir le chapitre 11 dans la première partie qui décrit les littératures du Nord et les littératures du Midi. La littérature du Nord inclut la poésie mélancolique, le chant de la nature, l'humour, le théâtre de Shakespeare, comme elle le nomme, ce génie immédiat qui a peint le premier la douleur morale au plus haut degré, et la philosophie sensualiste que Stahl appelle scientifique. Elle en loue d'abord les résultats pratiques avant de dénoncer la sécheresse d'une approche essentiellement expérimentale et scientifique. Mais de la littérature paraît en 1800, nous n'en sommes pas là encore. De la littérature est le résultat de ces années d'apprentissage et de formation, ces années difficiles de 1788 à 1798, où elle commence à rédiger son traité de la littérature. Nous sommes donc au départ de la construction volontaire de sa personnalité et de ses choix essentiels. À part aimer, c'est lire et écrire, deux activités qui vont de pair, auxquelles elle ajoute converser pour comprendre ce qui se déroule sous ses yeux et pouvoir agir. Et c'est agir dans le présent, dans le temps contemporain. Elle regarde le passé pour être sûre de ses pas, mais elle, c'est ce qui est contemporain, qui la touche, qui l'émeut, qu'elle veut toucher, comprendre, voir, et à quoi aussi elle veut participer. Cette période, comme vous le devinez par les dates, est d'une très grande complexité, et il faut des forces très grandes pour dominer ces échanges intellectuels, historiques, mais aussi existentiels. On passe de l'ancien régime au régime moderne, et c'est une transition, un passage extrêmement complexe dans toutes les couches de la société. Elle travaille donc sa pensée en écrivant et apprend à écrire en observant la fin de l'ancien régime et le développement des forces révolutionnaires qui se sont emparées de la France. Elle a donc sous les yeux ce dont elle veut parler, mais aussi ce qu'elle ne comprend que difficilement et surtout que partiellement. C'est en 1788 qu'elle publiera son premier écrit, « Lettres sur les ouvrages et le caractère de Jean-Jacques Rousseau », sur lequel nous reviendrons plus tard. Et dans les années de sa formation, où elle écrit aussi bien des traités que des fictions, elle découvre un nouvel art d'écrire en se dégageant de ce qu'elle a appris à l'écoute de ses parents et de leurs amis, écrivains, académiciens, politiciens, économistes, tous grandis dans l'Ancien Régime et sous l'Ancien Régime. Cette partie culturelle montre que pour elle, l'Angleterre existe comme un paysage culturel dans son univers. Pour preuve, sa bibliothèque anglaise se composait de son vivant de plus de 280 titres, de loin la plus importante des bibliothèques étrangères de Madame de Staël, selon Victor de Pange et Norman King. Les auteurs qu'elle cite, depuis l'essai sur les fictions à de la littérature, sont Richardson, Fielding, Godwin, Young, Pope, etc., sans compter Shakespeare, qui occupe une place majeure, ce qui est rare en France à cette époque. Troisième réponse, et c'est la plus forte, la plus importante, l'Angleterre représente pour elle un modèle politique. Grâce à l'équilibre des pouvoirs, garantie par sa monarchie constitutionnelle et grâce à sa constitution, dont Stahl souligne la perfection d'un bout à l'autre de sa carrière. Les réflexions sur la paix, adressées à M. Pitt et aux Français en 1794, jusqu'aux considérations sur les principaux événements de la Révolution française, publiées de manière posthume en 1818. Je vous donnerai une première citation dans la préface de ces réflexions sur la paix, adressé à M. Pitt et aux Français. C'est le début de sa préface. Sa constitution, chef-d'œuvre de raison et de liberté, donnait à l'Angleterre le droit de prononcer dans ce grand débat du monde. et à la fin de sa préface, elle indique le travail fait en elle par les turbulences de la Révolution qu'elle observe passionnément. Pour elle, toute réflexion doit mener à l'action, sinon celle-ci reste stérile, théorique, inutile. Sa sensibilité la pousse à exprimer ce qui la touche, l'émeut, l'étonne, et la conduit vers l'action. Après réflexion, toujours, elle a publié nombreux textes sous le titre « Réflexion sur, réflexion sur ». Elle ramène toutes ses émotions à l'existentiel, à la subjectivité. Elle cherche à trouver sa place dans le monde qui lui est proche, contemporain, et ce qu'elle aime dans le contemporain, c'est qu'il pourrait être, dans les bonnes époques, un garant du futur, un garant de notre avenir. Elle écrit « Moi-même, pendant le règne sanglant de Robespierre, lorsque chaque jour apportait l'effroyable liste des victimes dévouées, je ne savais que désirer la mort, qu'aspirer à la fin du monde et de cette race humaine, témoin et complice de tant d'horreurs. Je me serais reproché jusque à la pensée, comme trop indépendante de la douleur. Une sorte de trêve nous est accordée. Les massacres ont cessé, la campagne va finir. Consacrons ces instants à quelques idées générales dont l'excès du malheur ôtait la force d'approcher. » La deuxième citation, tirée des considérations sur la Révolution française, et qui reprend le sujet de la Constitution. Mais c'est un grand rêve, c'est une grande envolée lyrique, c'est un beau spectacle que cette Constitution, vacillante encore en sortant du port, comme un vaisseau qu'on lance à la mer, et déployant enfin ses voiles, en donnant l'essor à tout ce qu'il y a de grand et de généreux dans l'âme humaine. C'est parmi les choses qu'elle a écrites dans les dernières années de sa vie, mais qu'elle n'a pas publiées de son vivant. Tout en s'intéressant aux contemporains, comme je vous l'ai dit, elle a aussi cherché toujours à savoir pourquoi et comment cette révolution commencée avec des idées libérales, ouvertes, généreuses, avait abouti à la terreur. Comment cette évolution, mais on ne peut pas l'appeler évolution, comment ce choc a pu se réaliser. Elle a écrit deux ouvrages sur ce sujet, dont ses considérations sur la Révolution française, qui sont comme son testament. La force de ce modèle politique, qui occupe toute la pensée et les œuvres de Stahl, lui a été transmise par Necker, par son père, dont toute l'œuvre historique et administrative fait l'éloge de la Constitution anglaise. Necker lui transmet son plus bel héritage, le plus durable aussi. Après la mort de son père, elle écrivit en guise d'introduction à l'édition des manuscrits de Necker, restés jusque-là inédits, une notice intitulée « Du caractère de M. Necker et de sa vie privée », publiée à Genève. Avant de vous lire le passage qui concerne la Constitution, je voudrais faire une petite digression. C'est dans le début pour marquer la relation entre Germaine et son père, relation très singulière mais absolument merveilleuse. Une petite digression, c'est dans le début de cette notice que se trouve cette phrase fabuleuse sur l'amour qu'elle porte à son père. À peu près 20 ans se sont passés depuis son arrivée à Paris jusqu'à son mariage, et pendant ces années, un travail habituel l'a tellement absorbé qu'il n'a joui d'aucun des plaisirs de la vie. Quelquefois, en causant avec moi dans sa retraite, il repassait ce temps de sa vie dont le souvenir m'attendrissait profondément. Ce temps où je me le représentais si jeune, si aimable, si seul. Ce temps où nos destinées auraient pu s'unir pour toujours si le sort nous avait créés contemporains. Elle va défendre la ligne suivie par son père, qui a donc toujours considéré la Constitution anglaise comme la base solide d'une monarchie limitée, utile et nécessaire pour un État comme la France. Elle écrit dans cette notice, « Monsieur Necker croyait en théorie que le meilleur ordre social pour un grand État, c'est une monarchie limitée, telle que celle dont l'Angleterre offre l'exemple. Cette pensée domine dans tous ses écrits, et de quelque opinion politique que l'on soit, l'on ne peut nier, je pense, que l'amour de l'ordre et de la liberté n'y règne avec la double force, la sagesse de l'esprit et de l'élévation de l'âme. Mais les opinions politiques de mon père étaient, comme tout lui-même, entièrement soumises à la morale. Il avait des devoirs envers le roi, comme son ministre. Il craignait fortement les suites d'un mouvement insurrectionnel quelconque qui devait compromettre le repos et la vie des hommes. Et si l'on pouvait lui faire un reproche comme homme d'État, dans le sens qu'on attache vulgairement à ce mot, c'était d'avoir autant de scrupules sur les moyens que sur le but, et de placer la morale non seulement dans l'objet que l'on se propose, mais dans la route même que l'on suit pour y parvenir. » Ça, c'est une idée vraiment magnifique qu'il va toujours développer. Comment, avec un tel caractère, se serait-il permis, étant ministre du roi, de devenir l'instrument d'une révolution qui pouvait renverser le trône? Sans doute, il aimait la liberté. Quel est l'homme de génie et de caractère qui ne l'aime pas? Mais le devoir lui a toujours paru d'une origine encore plus céleste que les plus nobles sentiments de la terre. Et dans l'ordre des devoirs, les plus impérieux sont ceux qui nous lient individuellement. Car plus les rapports s'étendent, moins l'obligation est précise. Vous voyez dans quels termes elle parle de ces sujets abstraits, politiques et sociaux, et dans un vocabulaire qui ressemble beaucoup à celui de Necker lui-même. J'en arrive maintenant au voyage lui-même, à ce deuxième voyage en Angleterre, où Germaine de Staël n'est plus la femme, n'est pas encore la femme qu'elle deviendra, c'est-à-dire célèbre et connue de partout, pour ses idées, ses influences politiques, pour ses écrits extrêmement nombreux et importants qui renouvellent et la façon d'écrire et la façon de lire et la façon de comprendre le temps. Ce qui est intéressant là, c'est que la correspondance de cette année 1792 à 1793, la correspondance est extrêmement riche et intéressante sur toute cette question de l'émigration des Français vers l'Angleterre en masse. Et énormément de ces réflexions, quand on lit ces textes, ces lettres notamment, les difficultés de l'émigration sont vraiment pas très loin de celles que nous connaissons aujourd'hui. Et un grand nombre de décisions et de difficultés sont aussi les nôtres aujourd'hui. Mais évidemment, il s'agissait d'une émigration du côté de l'Angleterre, d'aristocrates. Et c'est une très grande différence avec l'émigration d'aujourd'hui. Et c'était en général, évidemment, des personnalités connus, célèbres dans leur fonction, leur métier, leur rang. Staël était facilement l'objet de moqueries, de plaisanteries. Elle n'était pas dans l'ordre, elle n'était pas conforme. Et tout cet anticonformisme, cette volonté d'être directe, d'être franche, mais d'être elle-même, était une qualité peu fréquente chez les femmes notamment, qui n'étaient pas poussées à se montrer en public, parler. Elles appartenaient plutôt, quoique intelligentes et instruites, au domaine privé. Elle, qui a probablement beaucoup rêvé d'être un homme, pour pouvoir dire ce qu'elle avait à dire ou pour pouvoir être ce qu'elle voulait être, plutôt que de devoir négocier et trouver des chemins et des détours pour arriver à ses fins. Elle était d'abord non conforme par ce que les, par sa, je dirais, sa non-beauté. Elle n'était pas quelqu'un de laid, au contraire, mais elle n'avait pas la beauté canonique que l'ancien régime, la cour, l'aristocratie trouvaient le meilleur. Elle était extrêmement différente dans son attitude. Et on a, notamment dans ses années de formation, on a toujours pensé qu'elle travaillait, écrivait, répliquait, répondait pour montrer son esprit, parce qu'elle ne pouvait pas montrer son corps ou son visage. Donc elle cultivait son esprit pour avoir quelque chose à montrer, à donner, et c'est ce qu'elle a fait magnifiquement. Et c'est un peu triste quand on pense qu'on la trouvait pas belle. Je crois qu'on n'a jamais dit qu'elle était laide, mais on la trouvait trop commune. Et on a beaucoup rappelé, quand on se moquait d'elle, ses origines roturières. Et ses parents lui ont construit ou composé un mariage de raison parce qu'elle a obtenu, grâce à Erik Magnus de Staël, les quartiers de noblesse qui lui permettaient, le minimum des quartiers de noblesse qui lui permettaient d'entrer à la cour. Et 15 jours après son mariage, elle a été en effet présentée à la cour en 1786. Et elle a pu aller avec son père, qui était ministre de Louis XVI, à l'ouverture des États généraux et aux premières rencontres des États généraux, un père qui était à l'époque dans sa gloire. Donc, il y a une sorte d'envie, elle a fait beaucoup de jalousie et donc de mécontentement, y compris chez les femmes. Elle était aussi incomprise de la part des femmes que de la part des hommes. Donc, c'est une première des situations de non-conformisme et de difficultés qu'elle aura jusqu'à ce qu'elle puisse s'imposer en tant qu'elle-même. Elle était évidemment une héritière recherchée, puisque ses parents étaient extrêmement riches et puissants. Jacques Necker avait un grand pouvoir, mais elle qui aurait voulu être l'égale de son père, ne pouvait évidemment pas s'affirmer de cette façon. À partir des massacres de 1700, à partir de 1792 surtout, elle est très menacée, et parce qu'elle ne cache pas son nom, elle ne cache pas ses opinions, et elle renvoie toujours à l'héritage de son père. Elle prend aussi la défense du roi et de la reine, et elle s'est affirmée d'un côté tout à fait opposée aux révolutionnaires, tout en cherchant dans ce qui pouvait amener la révolution les idées d'ouverture, les idées nouvelles, toutes sortes d'idées philosophiques qu'elle avait connues chez sa mère qui tenait un salon à Paris. Les amis de sa mère étaient les encyclopédistes pour la plupart, c'est-à-dire précisément des gens qui cherchaient un but nouveau à l'esprit, à l'éducation, à la formation. Ses amis, donc, les constitutionnels, comme Montmorency, comme Narbonne, comme Ribbing, comme d'autres, se voient expulsés de France ou menacés d'être arrêtés. Il y a toutes sortes de conventions, d'arrêts, de lois qui les attaquent. On peut entrer, enfin je vous lirai ça dans une des lettres. Donc ils sont menacés et Narbonne part dès août 1792, part à Londres, puis dans la campagne, non loin de Londres, à Juniper Hall, un petit village à 36 km de Londres. Il a cette maison depuis quelques années déjà, mais il l'améliore, l'agrandit, et c'est là que se tiennent les contre-révolutionnaires, si l'on veut, ou les groupes qui vont s'opposer à la révolution telle qu'elle se présente. Il faut être très nuancé là, parce qu'ils ne sont pas anti-révolutionnaires, mais ils veulent des formes à cette révolution, et ils veulent des garanties, et surtout pas des vérités trop strictes, trop raides. Ainsi, Narbonne, avec lequel elle a depuis 1790 une relation amoureuse, quitte Paris pour aller en Angleterre le 25 août. Et Germaine de Staël ne peut l'accompagner parce qu'elle attend un enfant pour novembre. Et elle décide de rester en Suisse et de le rejoindre seulement en janvier. Et il part donc pour ce village, Juniper Hall, où il a trouvé sa maison, qu'il agrandira progressivement pour accueillir ses amis et pour converser, échanger, faire de la vraie, une vraie politique et trouver les moyens de faire cette politique. C'est parce qu'ils sont séparés que les lettres qu'elle échange avec Narbonne occupent ces mois de séparation d'août 72 à janvier 73 et qu'on découvre ainsi beaucoup d'aspects et de Germaine est séparée de son amant et de Narbonne, homme de beaucoup son aîné et grand politicien et qui s'adonne avec passion à ses affaires politiques. Les éditeurs de la correspondance générale ont préféré grouper les lettres inédites à Louis de Narbonne dans un volume, puis dans un deuxième volume, les lettres diverses. Donc le volume, c'est le volume, le tome 2, le volume 1, paraît en 1960, ne contient que les lettres inédites de Staël à Louis de Narbonne. C'est une lecture absolument passionnante et qui permet de comprendre beaucoup de détails sur l'émigration. Je vais vous lire quelques lettres qui montrent combien Staël est engagé entièrement dans cette passion amoureuse pour Narbonne. Et son rêve est de faire de lui un ministre du roi. Il a toujours pour autrui des solutions pour leur faire agrandir ou élever leurs fonctions et leurs rôles. Mais on découvre aussi une Germaine amoureuse, passionnée, et qui est aussi entre la passion et la mort. La première lettre, du 25 août, elle apprend que Narbonne est arrivé sain et sauf en Angleterre et qu'il est donc sauvé et qu'il est là, qu'il est vivant. Donc ce 25 août 1792. Ah mon ami, quel sentiment j'ai éprouvé ce matin. Qu'il efface de peine, qu'il porte à remercier l'être suprême qui m'a si délicieusement sauvé la vie. Depuis 4 mois qu'un poison sûr ne me quitte pas, je puis enfin espérer qu'il me deviendra inutile, que ton enfant verra le jour et que je serai tant que je vivrai dans mes bras son père adoré, son père, objet d'un culte si tendre et si passionné. Laisse-moi me livrer à ce premier mouvement de mon âme. Tu ne sais pas à quel danger tu as échappé. Ces hommes cruels avaient jeté ta perte. Ils prétendaient avoir trouvé des papiers qui vous compromettaient horriblement. Et tout injuste que cela est, il se croyait sûr de votre condamnation. Voilà ce que j'ai su depuis, voilà. Ah mon Dieu, je me mets à genoux devant toi. Ma vie sera pure pour te remercier de me l'avoir conservée. Cette époque est d'une impression ineffaçable. Regrettez-vous à présent de n'avoir pas été à l'armée de Lafayette, arrêté à présent parmi les Autrichiens et les émigrants, accusé d'avoir emporté la caisse, que sais-je. Le soupçon d'avoir été au château, c'est-à-dire Versailles, tout injuste qu'il est, vaut beaucoup mieux. Et dans notre malheur, l'époque de votre immigration vaut mieux après le 10 qu'après la contre-révolution. On dit que cette insurrection l'éloignera. Je n'ai pas d'avis sur cela ni sur rien. Vous êtes en sûreté. Voilà mon sentiment, mon opinion, mon existence. L'histoire du poison est tout à fait réelle. Il y a une petite note. Résolue à se donner la mort s'il arrivait malheur à Narbonne, Madame de Staël s'était procurée de l'opium, poison qu'elle ne voudra détruire qu'en Angleterre, aux côtés de son amant. L'allusion aux 4 mois s'explique non seulement par la déclaration de guerre du 20 avril, mais aussi par les attaques très vives portées contre Narbonne depuis la même époque. Donc, voilà quels sont les sentiments de Germaine. Je vous lirai quelques autres passages de lettres, parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux l'histoire. Ce 28 août 1792, j'ai été ce matin chez M. Manuel pour lui demander de faire sortir M. de Jaucourt. C'est un ami constitutionnaliste qu'elle protège. Il m'a dit en conversation que vous l'aviez échappé belle et qu'il était difficile d'être plus compromis. Je n'ai pas daigné répondre, mais j'ai encore frémi. J'en ai été assez contente pour Jaucourt et je vous enverrai sa réponse que j'attends à 4 heures. Voilà une autre malheureuse affaire qui est l'arrestation de M. de Lally. On vous charge d'aller conforter Mme Dénin. Je vous envoie ma lettre ouverte pour elle. Lisez-la, cachetez-la et portez-la. Dans ces listes de noms, il y a beaucoup de prénoms et de noms qui sont des cache-noms, c'est-à-dire des masques qui protègent les vrais noms. Je pense qu'il y a là un Ferdinand qui ne doit pas s'appeler Ferdinand. Ferdinand est encore traduit en prison pour savoir où vous êtes. J'ai dit de répondre que vous étiez embarqué pour l'Amérique. Ils enragent de ne pas vous tenir. Concevez-vous que je sois quelquefois malheureuse par l'idée du danger affreux que vous avez couru. Ils vous auraient condamné indubitablement. Je saute un assez long passage et puis la fin de la lettre. Nous avons été heureux dans notre infortune. J'ai un pressentiment qu'il en sera de même du reste de notre vie. J'ai été bien tentée d'aller vous rejoindre à Londres, mais des devoirs sacrés, des devoirs dont l'observation peut influer sur votre bonheur, me commandent mon long voyage. Ah, je te conjure de t'occuper de toi pendant que je n'y puis rien, pendant que je ne sais que t'adorer, te regretter et donner la vie à ton enfant. La lettre suivante du 30 août contient un post-scriptum que je vous lis parce que c'est ce qui fait la turbulence de cette époque. Des visites domiciliées ordonnées sous prétexte des armes, mais dans le fait pour trouver messieurs Depoix et Narbonne, les deux personnes qu'on veut avoir à tout prix, m'ont encore retenue. Je jouis en pensant à tout ce que vous avez échappé et je pars demain. En fait, elle quitte Paris pour Coppet. Autre lettre, elle met la date du 30 septembre, mais l'éditrice des lettres corrige et dit c'est le 30 août. Le temps passe pas si vite, le temps passe extrêmement lentement pour elle. Il y a 2 courriers par semaine pour la Suisse. Je vous conjure de n'en jamais manquer un seul. Il ne tiendra pas cette promesse qu'elle lui demande. Je suppose que vous ne m'avez pas écrit par le courrier d'hier parce que votre lettre était adressée en Suisse. Cependant, l'inquiétude était prête à s'emparer de moi. Ah, vivre ailleurs qu'où l'on est, ne pas savoir si l'on existe, c'est un supplice que je ne supporterai plus. N'est-il pas vrai, mon ami, qu'après cette année, nous ne nous quitterons plus ? Nos cœurs se conviennent, ils se sont touchés de si près dans ces funestes circonstances qu'aucun de nous ne peut former un doute sur l'autre. Je ferai à tes goûts, à ton caractère, le sacrifice des défauts, de l'impétuosité du mien. Nous élèverons nos enfants ensemble, nous tâcherons de relever notre fortune à cause d'eux, et même de nous, et la triste expérience du caractère des hommes nous aura dégoûtés des idées ambitieuses. Mais fais quelques efforts sur ta disposition mélancolique. Il me semble que si tu ne t'étais jamais reproché d'avoir été un peu trop populaire, d'un côté, les événements ont prouvé que l'on ne pouvait se flatter de sauver le roi qu'en muselant et non en attaquant la faction. Et de l'autre, votre conduite dans cette dernière circonstance, les dangers affreux qu'elle vous a fait courir, ont bien expliqué vos premières intentions.
Le 31 août, Lali est en liberté, ce qui me donne beaucoup d'espoir pour Jaucourt. Mais qui est prisonnière? C'est moi. D'heure en heure, on me promet mes passeports et je crois qu'on ne veut pas me les donner. Je suis résolue à y forcer par les voies légales, mais ce qui me désole, c'est de n'avoir point de vos nouvelles pendant ces temps. J'en suis à me tourmenter pas mal de votre silence. Il y a à présent une affiche au coin des rues pour ordonner à tous les citoyens de vous arrêter. Croyez-vous que je ne meurs pas de colère d'habiter un tel pays? Mais vous ne pouvez que vous rendre qu'un service, c'est d'écrire à tout hasard à Alexandre par Ferdinand à Paris et à moi à Genève, en sachant que vos nouvelles, en me disant à toutes les minutes que vous avez échappé au plus atroce danger, je me calme un peu et je souffre plus doucement ma prison. Il y a grande querelle entre l'Assemblée et la Commune, le parti Brissot et le parti Robespierre, et les victimes qui sont entre deux périssent à droite et à gauche. Mais vous expliquez-vous tout ce qu'il me revient de leur acharnement contre vous? C'est presque à l'égal de leur haine contre M. Depoix. L'éclat les séduit, cela relève de leur vengeance. Je suis tourmentée de ce que vous manquez de tout là-bas. J'espère que cela ne durera pas. Mon Dieu, que je voudrais être avec vous, vous revoir après cet horrible adieu qui ne m'a coûté ni soupir ni larmes, qui me donnait le coup de la mort. Vous serrez contre mon cœur sans alarme après 4 mois de l'enfer. Mais vous êtes bien là, n'est-ce pas? Beaucoup de détails sur votre situation, beaucoup. Donnez-moi une heure, comme si nous causions. Dites-moi aussi si le voyage de Suisse vous serait ou désagréable ou difficile. J'y penserai de mon côté. On dit que les amis ont rasé Varennes, mais rien de positif ne se sait depuis l'interruption des lettres. Un moment terrible, c'est celui de la condamnation du roi. Pendant tous ces mois, il y a le jugement du roi et la condamnation. Il y avait une forme petite, mais une forme quand même d'espoir qu'on n'irait pas jusqu'au bout de la condamnation. Elle écrit « Lundi, l'on croit à l'appel au peuple après la condamnation et l'on espère même que cet appel sera renvoyé à l'époque de la ratification de la Constitution. Paris est tranquille de stupeur, d'indifférence ou de projet. » Elle écrit en Angleterre le 15 mai, juste avant de revenir en France, plutôt en Suisse. Elle écrit une sorte d'avertissement qui figure parmi les lettres pour indiquer son rôle. Et là, on comprend très bien ce côté contemporain de ce qu'elle doit sauver ses intentions et se faire connaître. Et c'est un avertissement qu'elle écrit le 15 mai 1793, juste avant de repartir. Elle répond aussi aux attaques des émigrés aristocrates qui l'ont accusée, comme Narbonne, d'être parmi les responsables de la Révolution. Et si vous pensez au texte que je vous ai lu, où elle parle de son père, c'est bien là qu'elle dit qu'il ne peut pas avoir été favorable à une insurrection contre son roi. Et là, elle se déclare en quelque sorte et elle essaie à la fois de se défendre. Quoi qu'on ait très souvent prononcé mon nom dans les libelles politiques qui ont calomnié depuis 4 ans toutes les personnes dont le nom pouvait être connu en France, je me suis constamment interdit de me défendre, soit que la haine même la plus méprisable ait le droit d'effrayer les âmes jeunes et douces, soit que les caractères simples et vrais ne puissent se résoudre à se croire méconnus. Je m'occupais d'un ouvrage moral et philosophique, c'est l'ouvrage sur les passions. Je m'occupais d'un ouvrage moral et philosophique qui ne répondait à aucune circonstance et convenait à tous les pays, lorsque des sentiments dont il est aisé de comprendre la force m'ont irrésistiblement entraîné à tracer ces rapides réflexions. Elles ne peuvent être utiles qu'en excitant des personnes vraiment instruites à les développer avec profondeur. J'ignore si les idées politiques qu'on a voulu me supposer nuiront au jugement qu'on portera sur cet écrit. Je ne dois pas croire néanmoins que dans un pays comme l'Angleterre, on se persuade que les opinions de quelques jeunes femmes peuvent être mises au rang des causes d'une révolution que les siècles ont préparée. Que 24 millions d'hommes ont voulu, d'une révolution défendue par la valeur, mais souillée chaque jour par la plus atroce inhumanité. On comprend difficilement dans quelle époque d'une telle histoire les défauts ou les qualités des femmes trouveraient à se placer. Celui qui parle de leur influence dans de semblables événements n'a suivi sans doute la révolution de la France que dans les bals et les raouts de Paris, et le résultat d'une telle étude doit paraître bien ridicule à des philosophes anglais. Je devrais craindre peut-être encore moins qu'on me soupçonnât d'avoir aimé jamais ce qui portait atteinte à la générosité et à la bonté. Toutefois, qui sait aujourd'hui jusqu'où peut aller l'injustice ? Le temps n'est plus où je croyais rencontrer partout des sentiments d'affection et de bienveillance, et cependant la haine dont j'étais l'objet n'a obtenu de moi aucun genre de vengeance. Le malheur a acquis sur mon cœur tous les droits de l'amitié, et je n'ai jamais eu avec le Parti des Républicains, maître aujourd'hui de la France, d'autres rapports que le courage, qui m'a permis de braver leurs menaces et d'oser profiter d'une circonstance particulière à moi pour leur arracher quelques victimes. D'autres temps, c'était plus qu'il n'en fallait pour inspirer quelque intérêt. Aujourd'hui, ce n'est pas même assez pour échapper à la calomnie. Mais qu'importe, moi, laissant ces sentiments personnels, d'autres peines me commandent et cette cruelle distraction doit l'emporter. Vous voyez cette grande affirmation de ce qu'elle est. Je vais prendre maintenant quelques autres lettres à vous lire. Donc, de Narbonne, elle vit depuis le mois de janvier à Juniper Hall, dans un village. Elle mène une vie d'aristocrate anglais à la campagne, somme toute peu différente de celle qu'ils mèneront à Coppet. On voit simplement cette grande habitude de la vie à la campagne. L'éditrice de la correspondance générale décrit très bien la maison et le cadre dans lequel elle vit en Angleterre. C'est l'Angleterre telle qu'on la rêve de temps en temps. Et elle nous dit aussi que Madame de Staël, devant rentrer en Suisse, voulant surtout rentrer en Suisse, cherchait une maison sur la côte qui ressemble à Juniper Hall et qu'elle n'en a pas trouvé. La maison comporte un salon charmant, décoré dans le style des frères Templeton qui auraient imaginé cet ensemble sculpté d'un effet très exceptionnel. Au dehors, les cèdres du jardin n'avaient pu atteindre en 1793 les proportions majestueuses qu'ils devraient prendre par la suite. Mais les environs étaient beaux et le restent encore aujourd'hui. Du sommet des collines proches, par temps clair, la vue s'étend jusqu'à Londres avec des échappées vers les Downs et en direction du sud vers la côte du Sussex. Le village de Mickleham, avec son église de style anglo-normand, se situe à peu près à mi-chemin entre le bourg de Leatherhead au nord et celui de Dorking au sud, le tout dans un rayon d'accès facile. Une distance de 36 km seulement sépare Mickleham de Londres. Madame de Staël, toutefois, laissera passer les 6 premières semaines de son séjour sans profiter de cette relative proximité. La route qu'elle voyait de ses fenêtres reliait la capitale à la plage de Brighton. En dehors des usagers locaux, elle devait être peu fréquentée l'hiver. Ce cadre agreste, que les réseaux routiers de grande circulation n'avaient pas encore déparé, pouvait-il plaire à Madame de Staël ? Elle y trouvait certes l'intérêt du dépaysement et de la nouveauté, puisqu'elle découvrait ce qu'était la vie provinciale anglaise. N'oublions pas non plus la haute qualité de son propre milieu, qui groupait des causeurs brillants. Mais les compléments d'une vie mondaine locale n'étaient aucunement exclus, ne serait comptée la plus forte concentration de country seats, les maisons de campagne de la gentry, de toute l'Angleterre. On sait que l'élite britannique faisait de plus longs séjours dans ces terres que la noblesse française. Les junipériens purent entrer en rapport avec une société très variée. Ce dont on se rend peu compte par les lettres, parce que Germaine est en train aussi d'apprendre l'anglais, alors elle écrit plutôt des billets, de façon à ce que les idées passent autrement que par les mots. L'occupation de Juniper Hall et celle de Coppet, notamment du groupe de Coppet, sont très semblables, en tout cas de ce qu'on en connaît. De temps en temps, pour tout le groupe, Madame de Staël fait des lectures dramatiques, choisissant le Tancrède de Voltaire ou un chapitre de l'ouvrage auquel elle travaille alors, de l'influence des passions. Elle presse vivement Fanny de leur rendre l'appareil en lisant des scènes de Shakespeare, mais cette demande embarrasse l'anglaise, qui n'aimait pas se mettre au premier plan. Ce qui rend inoubliables ces réunions, c'est la qualité de la conversation. Plusieurs fois de Londres, Talleyrand vient se joindre aux deux maîtres qui sont Narbonne et Madame de Staël. La jeunesse, la vitalité, les esprits animaux de celle-ci entraînent le groupe, l'empêchent de sombrer dans le découragement ou la maussaderie, combattent la crise de dépression nerveuse que traverse Narbonne. Fanny Burney évoquera plus tard ses brillantes rencontres. Oh, quelle journée que celle-là pour la perfection de la conversation, pour l'esprit, l'ingénuité, la gaieté, la répartie, les connaissances, le badinage et l'éloquence. Donc, on peut s'imaginer très bien ce qui a été vécu ici. Comme le temps passe assez vite, je vais raccourcir un peu mon propos. Et vous donner le mauvais côté de cette faction, de ce groupe de Juniper Hall, politiquement très engagé, mais en distance et en retrait de l'histoire immédiate. Staël, évidemment, ne passe pas inaperçu et une campagne s'est déclenchée contre l'amitié nouée entre elle et Miss Burney. On reproche à Staël ses opinions démocratiques et sa liaison avec Narbonne, d'où d'innombrables lettres, billets, etc., mises au point, mises en ordre. C'est une correspondance extrêmement ennuyeuse à lire. Ce serait plus amusant d'en faire un film. Le bilan, cependant, de ce séjour en Angleterre est mitigé, extrêmement mitigé. D'une part, elle est trop occupée de sa passion avec Narbonne et de cette relation tendue tout de même avec lui. Elle a son enfant, peut-être probablement qu'elle l'a pris avec elle, elle s'est toujours occupée très soigneusement de ses enfants. Elle a énormément de choses à faire et elle écrit toute la journée pour apprendre à, pour se donner de la forme, donner une forme à ce qu'elle sent, mais aussi à ce qu'elle veut et à ce qu'elle cherche à accomplir. Donc ce séjour la laisse avec un bilan mitigé. En fait, le séjour avait été beaucoup plus heureux que malheureux. La douceur de vivre avec Narbonne, l'indépendance relative, l'extrême gentillesse des voisins, le cadre charmant, purent laisser à Madame de Staël un souvenir attendri. En ces années 92 et 93, où s'écroulait un monde, les 4 mois de séjour anglais devaient lui apparaître comme un temps de bonheur, échappé au naufrage de la vie. Les souvenirs émus accentuaient l'essentiel, ils ne le déformèrent pas. Si elle a été pas aussi heureuse qu'elle aurait pu l'être, et notamment par le peu de connaissances qu'elle a fait des femmes qui étaient là dans la campagne alors qu'elles habitaient Londres, donc de personnes tout à fait intéressantes à voir. Il lui est resté un souvenir heureux parce qu'elle avait une bonne partie du bonheur sur lequel elle comptait, c'est-à-dire celui d'un compagnon et celui d'un enfant. Donc, je pense que ce deuxième séjour, vu les circonstances et les données, était peu, sur le moment, probablement difficile, mais avec le recul et les difficultés innombrables qui suivirent pour toutes les questions d'exil à cause de Napoléon, ça lui paraissait encore rien ce qu'elle avait vécu en Angleterre par rapport à ce qu'elle allait vivre en France. La dernière partie de ce que je voudrais vous dire, mais si vous êtes fatiguée, je peux aussi m'arrêter là, ce serait deux ou trois choses sur ce qu'elle a appris et comment elle a appris à écrire. Elle a passé donc le temps où elle a passé son temps à se préparer à écrire, savoir écrire, pouvoir écrire, de façon à être quelque part elle-même et à pouvoir donner son avis. Elle savait, comme tous ceux qui se mettent à écrire, que les mots trahissent bien plus que les sentiments et les idées, et que c'est par le vocabulaire et par la syntaxe qu'on apprend à dire ce qu'on veut dire sans équivoque, sans difficulté. On comprend aussi que c'est très difficile dans un temps aussi troublé que celui de la Révolution. Donc, elle va se donner les moyens de travailler comme un véritable écrivain, mais elle n'a eu comme maître que son père et sa mère. Elle a appris le grec et le latin, elle est très instruite, mais elle n'a pas de véritable formation. Et je pense que c'est une des choses magnifiques que cette réflexion qu'elle a toujours fait sur elle-même. Elle s'est toujours située par rapport à ce qu'elle vivait. Elle a toujours pensé être un peu à côté, un peu décalée, un peu hors de la ligne droite. Et c'est cette constante attention, cette veille à être probe avec la langue, mais pas une correction qui serait pédante ou scolaire, mais une correction par rapport au sens et au sentiment et à la sensibilité qu'elle avait très vive. Hormis l'aide incessante accordée à ses amis émigrés ou aux amis de ses amis, Stahl écrit et écrit pour publier. Elle passe du statut d'amatrice féminine de l'écrit à l'écrivain dont la vocation est d'écrire. C'est là tout un apprentissage qu'elle fait, particulièrement dans ces années difficiles où la Révolution bouscule tout et renverse l'ancien régime pour n'apporter ni des idées nouvelles ni des projets vitaux, mais la terreur. Elle doit apprendre le métier d'écrire et elle se mettra à écrire son premier livre à la fin de l'année 1786, qui est l'année de son mariage. Elle écrit son premier livre qui s'appelle « Lettres sur les œuvres et le caractère de Rousseau ». Elle le publiera en 1788. Et elle fait pour apprendre, parce que l'œuvre de Rousseau est immense, mais aussi extrêmement variée, elle a différents pans, et elle choisit au fond de lire toute cette œuvre de Rousseau et de dire ce qu'elle en pense. Elle va donc s'inventer une forme de critique littéraire bien à elle pour rendre compte de l'ensemble des ouvrages de Rousseau. Lire pour écrire, écrire pour mieux lire. On progresse de cette façon. C'est une critique d'accompagnement, une lecture presque à deux voix, et non pas une analyse rigoureuse ou systématique, comme les philosophes, et notamment les philosophes des Lumières l'ont fait. Elle cherche à comprendre et les idées de Rousseau, et Rousseau lui-même avec empathie. Donc elle ne sépare pas l'homme et les ouvrages. Elle les prend l'un après l'autre. Elle insiste donc sur ce qu'elle apprécie et admire, ce qu'elle comprend, ce dont elle peut faire quelque chose, ne serait-ce qu'un ensemble de phrases. Elle ne cherche pas une vérité objective et ne fait pas un plaidoyer pour le vrai. Elle reçoit Rousseau, ses idées, sa façon de vivre, comme un interlocuteur avec qui échanger sur les projets fondamentaux de la vie humaine. Elle l'interpelle, elle le consulte, elle fait les questions et les réponses pour se tenir aussi à distance. Elle ne peut être toujours d'accord avec lui et garde donc des distances nécessaires. Elle est jeune, elle a une sensibilité de jeune femme, son avenir est féminin. Elle n'est pas systématique, plutôt comme Rousseau, qui avait une logique inductive, car il était avant tout musicien. Je pense que ce que Stahl a compris, mieux que beaucoup de philosophes, c'est que Rousseau a d'abord été musicien, pendant les premiers tiers de sa vie, et c'était aussi son gagne-pain, il copiait les partitions, et il a composé de la musique, il a beaucoup tenu à la musique, et elle, qui était aussi musicienne, elle a pu, en quelque sorte, s'entendre avec lui sur un fond où le littéraire n'est pas seulement logique, une logique déductive, comme c'est le cas dans l'instruction, mais d'une autre forme, plus propre, plus personnelle, plus intime, qui l'habitait elle. Cette façon d'écrire, très très particulière, est tout à fait significative de quelqu'un qui apprend pas seulement à écrire pour écrire, mais qui apprend à écrire pour mieux vivre, mieux sentir, mieux entendre, mieux écouter. Toutes ces choses qui sont éducables. Cette perception, et ce n'est pas pour rien qu'elle appartient au siècle des Lumières, tout ce qui est de l'ordre des perceptions est très très important pour elle. Je vais vous lire 2-3 petits passages pour que vous entendiez cette voix qui essaye de trouver son vrai ton, son vrai timbre, son vrai registre, en s'appuyant sur l'homme dont la prose est la plus musicale qui soit et dont la prose est extrêmement belle. Elle n'a pas choisi un écrivain facile, elle a au contraire choisi un écrivain, ça c'est peut-être son sens intime qu'elle avait, cette intuition qu'elle avait, qu'il ne faut pas passer par le facile, qu'il faut passer par le difficile si on veut apprendre. Donc elle avait ce type d'intuition. Elle a publié son livre donc en 88 et elle le republiera 10 ans plus tard, c'est à peu près son cycle temporel. Et dans la seconde préface, elle écrit, elle discute de ce qu'elle a écrit. Elle ne fait pas seulement que republier, mais elle réfléchit à ce qu'elle a écrit et peut le retoucher. Ses lettres sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau ont été composées dans la première année de mon entrée dans le monde. Elles furent publiées sans mon aveu et ce hasard m'entraîna dans la carrière littéraire. Je ne dirai point que j'y ai du regret, car la culture des lettres m'a valu plus de jouissance que de chagrin. Il faut avoir une grande véhémence d'amour-propre pour que les critiques fassent plus de peine que les éloges ne donnent de plaisir. Et d'ailleurs, il y a dans le développement et le perfectionnement de son esprit une activité continuelle, un espoir toujours renaissant que ne saurait offrir le cours ordinaire de la vie. Tout marche vers le déclin dans la destinée des femmes, excepté la pensée dont la nature immortelle est de s'élever toujours. Les sentiments, il est vrai, peuvent entraîner malgré les lumières, mais ce n'est pas à cause d'elles. Il arrive souvent que les femmes d'un esprit supérieur sont en même temps des personnes d'un caractère très passionné. Toutefois, la culture des lettres diminue les dangers de ce caractère au lieu de les augmenter. Les jouissances de l'esprit sont faites pour calmer les orages du cœur. Et puis, dans la première préface, C'est la fin de sa première préface. D'ailleurs, n'est-ce pas dans la jeunesse qu'on doit à Rousseau le plus de reconnaissance ? Celui qui a su faire une passion de la vertu et qui a voulu persuader par l'enthousiasme s'est servi des qualités et des défauts même de cet âge pour s'en rendre le maître. Donc, c'est un magnifique éloge de la jeunesse. Je vais vous lire deux passages. Il y a 6 lettres, chacune sur un des pans de l'œuvre de Rousseau. La lettre 4, c'est sur les ouvrages politiques de Rousseau. Ce qui est original dans ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle dit « je ». Elle ne dit pas toujours « je », elle dit aussi « on », mais elle dit ce qu'elle pense. Or, dans les livres de philosophie ou les livres de critique littéraire ou de critique philosophique, on s'éloigne plutôt parce qu'on cherche l'objectivité, la vérité. Là, elle cherche la subjectivité. Elle n'a pas peur de la subjectivité parce que c'est là qu'elle va se sentir elle-même. Et c'est pour ça que c'est un passage tout à fait intéressant avec cette possibilité de dire « je » et non pas cette possibilité de dire « nous » ou bien « on » ou bien « tous ». « Je l'aime aussi, de toute la force et de toute la vivacité de mes premiers sentiments, cette liberté qui ne met entre les hommes d'autres distinctions que celles marquées par la nature. Et m'exaltant avec l'auteur des lettres sur la montagne, je la voudrais telle qu'on la conçoit sur le sommet des Alpes ou dans leur vallée inaccessible. Maintenant, un sentiment plus fort, sans être contraire, suspend toutes mes idées. Je crois au lieu de penser, j'adopte au lieu de réfléchir. Mais cependant, je n'ai sacrifié mon jugement qu'après en avoir fait un noble usage. J'ai vu que le génie le plus étonnant était uni au cœur le plus pur et à l'âme la plus forte. J'ai vu que les passions ni le caractère n'égareraient jamais les facultés les plus sublimes dont un homme ait été doué. Et après avoir osé faire cet examen, je me suis livré à la foi pour m'épargner la peine d'un raisonnement qui la justifierait toujours. Vous, grande nation, bientôt rassemblée pour consulter sur vos droits, étonnée de vous retrouver après 2 siècles, et peu fait encore, peut-être, à l'exercice du pouvoir que vous avez obtenu de nouveau, je ne vous demande pas ce sentiment aveugle dont j'ai fait ma lumière, mais ne vous défiez pas de la raison. Et puisque la succession d'événements qui ont agité ce royaume depuis 2 années vous ont enfin amené à devoir au progrès seul des lumières, les avantages que les nations n'ont jamais acquis que par des flots de sang, n'effacez point le sceau de raison et de paix que le destin veut apposer sur votre constitution. Et quand l'accord unanime vous permet de compter sur le but que vous voulez atteindre, prétendez à la gloire de l'obtenir sans l'avoir passé. Et toi, Rousseau, grand homme si malheureux, qu'on ose à peine te regretter sur cette terre que tes larmes ont tant de fois arrosée, que n'es-tu le témoin du spectacle imposant que va donner la France d'un grand événement préparé d'avance et dont, pour la première fois, le hasard ne se mêlera point. C'est là, peut-être, c'est là que les hommes te paraîtraient plus dignes d'estime. Ou je me trompe, ou nulle passion personnelle ne doit maintenant les animer, ils ne mettront en commun que ce qu'ils ont de céleste. Ah, Rousseau, quel bonheur pour toi si ton éloquence se fût fait entendre dans cette auguste assemblée. Quelle inspiration pour le talent que l'espoir d'être utile. Quelle émotion différente quand la pensée, cessant de retomber sur elle-même, peut voir au-devant d'elle un but qu'elle peut atteindre, une action qu'elle produira. Les peines du cœur seraient suspendues dans de si grandes circonstances. L'homme occupé d'idées générales disparaît à ses propres yeux. Renais donc, ô Rousseau, renais donc de ta cendre, paraît, et que tes vœux efficaces encouragent dans sa carrière celui qui part de l'extrémité des maux en ayant pour but la perfection des biens. Celui que la France a nommé son ange, tutélaire, et qui n'a vu dans ses transports pour lui que ses devoirs envers elle, celui que tous doivent seconder comme s'il secourait la chose publique, enfin, celui qui devait avoir un juge, un admirateur, un concitoyen comme toi. Et vous avez vu comment on passe très lentement à la fin, on passe à son père, à Necker, dans ses Rousseau, Necker comme des frères, et elle glisse de l'un à l'autre sans qu'on s'aperçoive de ce décalage, sauf quand on regarde. Donc, on voit là, il y a dans ce passage que je vous lis, et puis dans cet ouvrage, ce premier ouvrage de Germain de Staël, beaucoup de choses qui ont fait rire d'elle. C'est ce lyrisme, cette admiration, cet enthousiasme. Ce sont des choses très difficiles à maintenir en raison. Et donc, elle est souvent considérée comme quelqu'un qui écrit lourdement et peut-être trop idéalement. En tout cas, on s'est beaucoup moqué de son enthousiasme. Elle retient, comme à peu près tout le monde qui a lu les Confessions de Rousseau dans le sixième livre, ce qu'il dit de la botanique. Elle met dans un même chapitre sur le goût de Rousseau pour la musique et la botanique, dans la même lettre 5, sur le goût de Rousseau pour la musique et la botanique. Je vous lis cette fin de phrase que vous connaissez sûrement, parce qu'elle, en quelque sorte, elle rédige comme Rousseau a rédigé sa découverte au petit matin d'une pervenche. Elle reprend exactement, non pas elle ne copie pas la phrase, elle ne l'imite pas, mais elle lui donne son rythme à elle. Avec quel charme il peint dans ses confessions ses transports en revoyant de la pervenche, comme elle lui retraçait tout ce qu'il avait éprouvé jadis. Elle prodigeait sur lui l'effet de ses terres, que l'on défend de jouer aux Suisses hors de leur pays, dans la crainte qu'ils ne désertent. Cette pervenche pouvait lui inspirer la passion de retourner dans le pays de Vaud. Une seule circonstance semblable lui rendait présent tous ses souvenirs, sa maîtresse, sa patrie, sa jeunesse, ses amours. Il retrouvait tout, il ressentait tout à la fois. Et je vais vous lire la fin, qui est comme un peu comme ce que je vous ai lu, où elle passe à son père. Et on voit que ce premier ouvrage qui représente ou représente l'œuvre de Rousseau est complètement portée par la vision de son père et le rôle de son père. Ces phrases sont très longues. Les larmes des malheureux effacent chaque jour les simples inscriptions que l'amitié fit graver sur la tombe de Rousseau. Je demande que la reconnaissance des hommes qui l'éclaira, des hommes dont le bonheur l'occupa toute sa vie, trouve enfin un interprète, que l'éloquence s'arme pour lui, qu'à son tour elle le serve. Quel est le grand homme qui pourrait dédaigner d'assurer la gloire d'un grand homme ? Qu'il serait beau de voir dans tous les siècles cette ligue du génie contre l'envie. Que les hommes supérieurs, qui prendraient la défense des hommes supérieurs, qui les auraient précédés, donneraient un sublime exemple à leurs successeurs. Le monument qu'ils auraient élevé servirait un jour de piédestal à leur statue. Si la calomnie osait aussi les attaquer, ils auraient d'avance mis en défiance contre elle, émoussé ses traits odieux. Et la justice que leur rendrait la postérité acquitterait la reconnaissance de l'ombre abandonnée dont ils auraient protégé la gloire. Voilà comment se termine ce livre. Je vous remercie de vos attentions.
Je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai, on connaît la Germaine de Staël de Napoléon et de Benjamin Constant et on la connaît très très mal dans ses premières années. Et je crois que vous avez vraiment jeté une lumière sur ses pensées, sur ses sentiments, parce qu'on parle beaucoup de sentiments chez Germaine de Staël. Et c'était vraiment pour terminer notre série de conférences. C'était vraiment une belle manière de le faire. Alors, un grand, grand merci. C'était vraiment une très, très belle soirée avec vous, Doris. Vous pouvez encore une fois applaudir. Peut-être aussi, je veux dire merci à tous ceux qui rendent possible ces soirées, et n'oublions pas les concerts. J'aimerais quand même les nommer. Véronique Viel, où es-tu? Voilà, au fond de la salle. Et Anne Bandley, la vice-présidente, peut-être elle peut aussi. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur notre association, n'hésitez pas à me les poser ou à mes deux collègues. Et puis, j'aimerais aussi remercier la personne qui est à la mécanique, M. Gaguerre. Et last but not least, les personnes qui sont derrière le bar et qui dans la vie, s'occupent du château, Marino et Anka. Voilà, une belle soirée. Je vous invite.
Si quelqu'un a une question à poser, il peut me la poser comme ça.